VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 27 janvier 2017, plusieurs soldats tués dans l'attaque d'une base kényane de la MISOM en Somalie par Al-Shabaab. Un accord a été trouvé en Côte d'Ivoire pour mettre fin à la grève de la fonction publique. Réunion de chefs d'État africains à Brazzaville pour discuter de la crise libyenne. Le président américain Donald Trump a accueilli à la Maison Blanche la première ministre britannique Theresa May. La nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU met en garde ceux qui s'opposeront à la politique du président américain. Et la CAN 2017 au Gabon à l'affiche des premiers quarts de finale demain. Burkina Faso, Tunisie et Sénégal, Cameroun. Nous ferons le point dans le journal de la CAN. Mais avant de développer ces titres, le journal. Attaque meurtrière d'Al-Shabaab contre une base militaire kényane en Somalie. Les islamistes affirment avoir tué une soixantaine de soldats, ce que dément l'armée kényane sans fournir de bilan. Jacques Aristide.
C'est la base de Kolbio, tenue par des soldats kényans de la mission de l'Union africaine en Somalie, qui a été visée. L'assaut a débuté par une attaque kamikaze à la voiture piégée pour ouvrir une brèche dans l'enceinte du camp. Des combattants Shebab ont pris d'assaut le camp depuis plusieurs directions. Les Shebab ont affirmé avoir pris la base et s'être emparés de véhicules et divers équipements militaires. L'armée kényane a de son côté affirmé avoir farouchement repoussé l'attaque et tué un grand nombre de terroristes. Et d'ajouter que l'information relayée par Al-Shabaab sur les réseaux sociaux est fausse et fait partie intégrante de sa propagande. Les Shebab ont l'habitude d'exagérer le bilan de leurs assauts, tandis que le Kenya minimise généralement ses pertes. Les islamistes somaliens ont mené plusieurs attaques d'ampleur contre des bases de la MISOM en utilisant le même modus operandi que ce vendredi. Quelques 22 000 soldats africains sont actuellement déployés en Somalie dans le cadre de la mission de l'UA. Ils soutiennent le fragile gouvernement somalien contre les Shebab qui ont juré sa perte.
La République du Congo accueille ce vendredi un mini-sommet sur la crise libyenne présidé par Denis Sassou Nguesso. Plusieurs chefs d'État, dont les présidents tchadiens et nigériens Idriss Déby Itno et Mamadou Issoufou, y ont pris part. Le point avec notre correspondante Gwelan Goussou.
Trois chefs d'État du Tchad, de la Mauritanie et du Niger ont rejoint Denis Sassou Nguesso à Brazzaville pour parler de la crise libyenne. Idriss Déby, qui est également président en exercice de l'Union africaine, ne jure que par le dialogue entre les frères libyens.
Comme on l'a tous reconnu, la solution pérenne et durable à la crise libyenne passe par le dialogue et la concertation inclusive.
Denis Sassou Nguesso, qui a abrité ces sommets, a rappelé à ses homologues que leur devoir était d'apporter l'espoir aux Libyens.
Aujourd'hui, nous avons résolu de remettre l'ouvrage sur le métier. Cette fois-ci, avec plus de détermination, parce que nous devons aider la Libye à sortir de l'abîme.
L'Union africaine va examiner le 30 janvier prochain à Addis Abeba les conclusions obtenues à Brazzaville. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis le 9 janvier pour une revalorisation salariale ont suspendu leur mouvement pour un mois et appelé à la reprise du travail lundi. Tatiana Mosso.
Réunie en assemblée générale, la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires a décidé de suspendre pour un mois son mot d'ordre de grève. Les organisations syndicales invitent les travailleurs de la fonction publique à reprendre le travail dès lundi prochain, le 30 janvier. Toutefois, les syndicats ont marqué leur insatisfaction concernant le paiement d'arriérés d'un montant global de 243 milliards de francs CFA pour près de 130 000 travailleurs, soit près de 80% de la fonction publique. Par conséquent, les syndicats invitent le gouvernement à faire des propositions de paiement pour éviter un autre mouvement de protestation. Un accord sur 5 des 6 points de revendication a été trouvé par le gouvernement, selon Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des syndicats de fonctionnaires. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certaines primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012, dont les premiers effets se font ressentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi.
Des centaines de Mauriciens ont manifesté à l'appel de l'opposition contre la nomination de Pravin Jugnauth au poste de Premier ministre suite à la démission de son père, dénonçant une succession de type monarchique et réclamant de nouvelles élections. Sa désignation survenue cette semaine suscite un fort rejet de l'opposition qui a boycotté sa prestation de serment.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La nouvelle ambassadrice américaine aux Nations Unies a assuré que les États-Unis allaient montrer leur force au sein de l'organisation. Eric Manirakidza.
Avant son premier entretien avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Nikki Haley a lancé une menace à peine voilée. Ceux qui ne nous soutiennent pas, nous notons vos noms et nous répondrons en fonction, a-t-elle déclaré aux journalistes. Selon l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, le but de l'administration Trump est de jouer un rôle à l'ONU et pour ce faire, montrer sa force. Des médias américains font état d'un projet de décret présidentiel qui priverait l'organisation d'une aide financière chiffrée à plusieurs milliards de dollars. Cette possible coupe budgétaire pourrait faire souffrir les Nations Unies. Washington finance 22% du budget onusien et 28% des opérations de maintien de la paix qui coûtent 7,8 milliards de dollars par an. Avant de prêter serment le 20 janvier, Donald Trump avait qualifié l'ONU de club pour des gens qui ne veulent se réunir et passer du bon temps.
Voilà, et d'ailleurs, le Kenya a perdu 9 soldats. Le président américain Donald Trump a accueilli à la Maison-Blanche la première ministre britannique Theresa May. Ils viennent de terminer une conférence conjointe. Nous y reviendrons plus tard. Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a rassuré ses homologues européens sur l'engagement des États-Unis dans l'OTAN, selon le Pentagone. Jim Mattis s'est entretenu par téléphone avec les ministres français, allemands et israéliens de la Défense, a rapporté Jeff Davis dans un communiqué. Marche ce vendredi à Washington de centaines de personnes contre l'avortement. Il s'agit de la marche annuelle pro-life. Bagassi Koura nous en dit plus.
La lutte contre le droit à l'avortement gagne du terrain en Amérique et vit un tournant historique, a affirmé Mike Pence, premier vice-président américain à assister à cette manifestation. Le droit à la vie est en train de gagner, a déclaré M. Pence en référence au nouveau rapport de force instauré par la victoire de Donald Trump. Le nouveau gouvernement et le Congrès sont désormais contrôlés par des opposants à l'avortement. Nous avons atteint un tournant historique dans la défense de la vie, a insisté le nouveau vice-président, applaudi par des milliers de manifestants rassemblés sur le National Mall, grand parc au sud de la Maison-Blanche. Dans un tweet vendredi, Donald Trump a assuré de son soutien total les participants à cette marche pour la vie. Le président leur avait déjà donné satisfaction lundi en signant parmi ses tout premiers décrets une interdiction de financement des ONG qui soutiennent l'avortement. M. Trump doit aussi nommer jeudi le 9e juge de la Cour suprême qu'il a promis de choisir parmi les opposants à l'avortement.
La journée de commémoration des victimes du nazisme a été ternie vendredi en Allemagne par un cadre du parti populiste de droite AfD qui a été exclu de deux cérémonies. Björn Höcke, chef de file des députés de l'Alternative pour l'Allemagne du Parlement de Thuringe, a été exclu de la cérémonie de l'Assemblée car il avait déploré l'existence d'un mémorial de la honte à Berlin en référence au mémorial de la Shoah. L'accès à la cérémonie de Buchenwald lui a également été interdit par les organisateurs, jugeant inacceptable qu'ils viennent y déposer une gerbe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous. Aucun match de prévu ce vendredi, mais la pression monte au Gabon avant les deux premiers quarts de finale demain. Burkina Faso, Tunisie et Sénégal-Cameroun. À Libreville, les étalons du Faso affrontent la Tunisie. Un match équilibré sans favori, selon Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, qui s'est exprimé tout à l'heure en conférence de presse.
Moi, j'attends une Tunisie forte, parce que la Tunisie, son coach, à dire même que son objectif, c'est de passer en quart de finale. Ils sont là. Donc c'est comme je disais avant, une équipe qui rentre dans cette coupe à perdre 2-0 contre le Sénégal, et qu'après Riyad contre une grande équipe comme l'Algérie, ça va dire que c'est une équipe forte mentalement, ça va dire que c'est une équipe qui a un énorme potentiel. Et il y a un énorme potentiel, même s'ils sont éliminés. Je sais que c'est une équipe forte, une équipe qui est habituée à ce niveau de compétition, joueur de poste, joueur de grande personnalité, de grand caractère. Et donc, c'est un match difficile pour deux équipes.
Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui court après sa glorieuse finale perdue en 2013 et espère bien avancer dans le dernier carré de la compétition. La Tunisie, elle a remporté la CAN, c'était en 2004, autant dire une éternité en football. Ces deux équipes font figure d'outsider, comme nous l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Tonangmaï.
Burkina-Tunisie, le choc entre deux équipes qui ont entamé le tournoi lentement avant de finir la phase de groupe sur une forte impression. Les étalons burkinabés ont enregistré deux matchs nuls contre le Gabon et le Cameroun. Ils se sont ensuite imposés 2-0 face au Likaon-Bissau guinéen. Bien que privés très tôt de leurs stars Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo, les Burkinabés semblent s'être ajustés pour la suite de la compétition. Deuxième d'un groupe B où ils avaient trébuché en première journée, les Tunisiens se sont rachetés en s'imposant 2-1 face à l'Algérie, mais surtout 4-2 contre les Zimbabwéens. 4 buts inscrits en première mi-temps par Sliti et Msakni notamment. Un avertissement aux futurs adversaires quant aux ambitions des Aigles de Carthage dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, après leur unique titre continental remporté en 2004. Timothée Donangmaï, OIM, VOA Afrique.
Autre match samedi, le Sénégal affrontera le Cameroun, un duel de Lyon où les Sénégalais sont favoris au vu de leurs prestations lors du premier tour. Un statut que dément Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga.
L'équipe du Cameroun n'est pas si jeune que ça. Elle a quand même elle a du vécu, elle a de l'expérience, elle a des très grands joueurs. Aujourd'hui, sur le plan mental, on connaît la force mentale du Cameroun. Mais dans ce sens-là aussi, le Sénégal a beaucoup progressé aussi. Donc, comme je vous le dis, nous ne pouvons pas être favoris. Le Cameroun a gagné 4 Coupes d'Afrique, nous, on n'a pas encore gagné.
Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Du côté camerounais, le sélectionneur Hugo Brousse reconnaît qu'il voulait absolument éviter le Sénégal. C'est raté.
Naturellement, j'ai toujours dit, il y a quelques jours, qu'on allait essayer d'éviter le Sénégal en quart de finale. Parce que je trouvais que la façon dont j'ai joué le match du groupe était parfois impressionnant. Donc, c'est toujours bien de savoir éviter un adversaire pareil. De l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas dans nos chances. Demain, et ça c'est naturellement l'avantage qu'on a, on sait très bien à quoi s'attendre. Et on a aussi les qualités pour les battre demain.
Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Brousse, des réactions recueillies à Franceville par Amdinsi pour VOA Afrique. Dimanche, les deux derniers quarts de finale, RDC, Ghana et Maroc, Égypte. Les Pharaons qui frappent fort pour leur retour à la CAN. Aucun but encaissé lors de la phase de poule pour l'équipe entraînée par Hector Kuipers. De l'autre côté, après leur victoire contre les Éperviers du Togo, les Léopards de la RDC ont retrouvé le nord du Gabon et poursuivent, malgré de nombreux cas de blessures, la préparation du match à Oyem. Le point sur place avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
De retour à Oyem depuis jeudi, les Léopards de la RDC se sont déjà mis au travail pour préparer leur quart de finale de ce dimanche 29 janvier contre les Black Stars du Ghana. Florent Ibenge, le sélectionneur de la RDC, parle du Ghana comme, je cite, « un des favoris logiques de la compétition qui a une régularité diabolique à ce niveau de la compétition et qui sera un adversaire très très fort ». Fin de citation. Le groupe congolais est surtout décimé par des blessures. Si Fabrice Moussakala est de retour dans le groupe, Gabriel Zakouani, Jordan Ikoko, Jacques Magoma ou encore l'indispensable Chancel Mbemba ont des sérieux soucis de santé qui risquent de les contraindre à déclarer forfait pour ce match. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, je vais composer mon équipe avec les présents et l'objectif reste le même, me retrouver à Franceville le mercredi prochain pour la demi-finale, a conclu le numéro 1 du staff technique congolais. Oyem, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et c'est la fin de ce journal de la CAN sur notre antenne. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
En RDC, la Banque centrale renforce le marché bancaire avec 50 millions de dollars pour soutenir le franc congolais. Cette monnaie a perdu près de 40% de sa valeur. Les secteurs pétrolier et minier constituent 95% des recettes d'exportation du pays, mais la chute des prix a fragilisé la monnaie locale. Le Mali et le Bénin se bousculent sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bamako émet le 1er février des titres pour 30 milliards de francs CFA. Le taux d'intérêt est de 5,75% avec échéance le 2 février 2022. De son côté, Cotonou émet le 2 février des bons du Trésor pour 35 milliards de francs CFA à taux d'intérêt multiple. Les investisseurs des pays de l'UMOA peuvent en bénéficier. Enfin, le PEP et 11 pays non membres de cette organisation envisagent à réduire la production mondiale de pétrole de 1,8 million de barils par jour dès le mois de février. C'est la conclusion du comité ministériel de surveillance réuni la semaine dernière.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre lundi prochain à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame devrait y présenter un plan très attendu de réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine. John Linden a joint Marie-Roger Biloa, directrice du groupe de presse Africa International.
Alors, l'Union africaine est à la fois une organisation nécessaire, indispensable, et en même temps un reflet de, je dirais, de l'incapacité des Africains à régler l'essentiel des problèmes. Il y a des succès qui sont essentiellement dans le passé. Elle ne se donne pas les moyens de booster l'économie des pays. Elle reste en partie un club de chefs d'État où on tourne autour du pot. Et donc, elle a vraiment besoin d'être pensée et de savoir à quoi elle veut servir.
Alors, justement, on parle donc de plus en plus de réformes au sein de cette institution. Qui est-ce qui doit prendre l'initiative?
Déjà, c'est sûr que beaucoup repose sur la qualité du président de la Commission, sur sa volonté à agir, sur son côté proactif, même si il est vrai que le président ou la présidente de la Commission doit sans cesse s'en référer au sommet des chefs d'État, aux décisions des pays. Mais il y a beaucoup de choses déjà qu'un président peut faire en interne. D'abord, restaurer à cet outil une efficacité qu'elle n'a jamais eue. Je peux vous dire c'est une espèce de monstre bureaucratique. Et j'ai vu des présidents de commissions qui ne connaissaient pas l'organigramme et qui étaient incapables de faire passer des décisions, même pour réformer le personnel.
Vous le disiez tout à l'heure, l'Union africaine, c'est un peu le syndicat des chefs d'État africains. Pensez-vous que ces chefs d'État soient ouverts à ces réformes?
Alors, si on les écoute tous, ils n'ont que ce mot à la bouche. Il faut réformer, il faut se donner les moyens d'eux, il faut notamment réformer le mode de financement de l'Union africaine. Ils en parlent tous. Et le président rwandais qui a été commissionné par ses pairs pour apporter des solutions.
Marie-Roger Biloa est directrice d'Africa International Media Group 1. De passage à Oyem pour les matchs de la 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Notre envoyé spécial Timothée Donangmaï en a profité pour se rendre à la frontière de la Guinée équatoriale où des migrants venus d'autres pays en profitent pour faire des affaires. Voici son récit.
À bord d'un véhicule tout-terrain, nous quittons Oyem par une voie latéritique chaotique serpentant à travers la forêt équatoriale. destination Mézinc, village frontalier d'une centaine d'âmes situé à 37 km. En face de la brigade de gendarmerie locale, une barrière. Et au-delà, sur une colline, une ville moderne aux larges rues et aux immeubles flambants neufs, Mongomo, ville natale du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. C'est là-bas que se rend souvent Oumar Abderrahman, boutiquier tchadien établi à Mézinc, pour se procurer certains articles.
Comme les gels, comme les crèmes, comme les locaux en bois, voyons un peu les gis.
Et pourquoi vous achetez là-bas plutôt qu'à Oyem?
Parce qu'il y a les autres produits qu'il y en a à l'autre côté, et l'autre produit qu'il n'y a pas à Oyem.
Rosette Meyemeze, contrôleuse des affaires maritimes, revient justement de la Guinée équatoriale, où elle est allée acheter des produits cosmétiques espagnols. Les agents d'immigration équato-guinéens ne sont pas d'un abord facile, soupire-t-elle.
Contrairement aux agents du Gabon, ils sont un peu plus stricts et parfois fiers, ils sont nerveux, ils n'écoutent pas trop, quoi. On a l'impression qu'ils ne sont pas en Afrique centrale.
À la faveur de la CAN 2017, le contrôle s'est tout de même assoupli en Guinée équatoriale, reconnaît cette fonctionnaire gabonaise. Pour gagner OIM, elle doit s'adresser à Gervais Nguema, 34 ans, qui enregistre les passagers.
On écrit le nom, on fait la liste. Après, quand la voiture est pleine, on fait une liste, on les appelle. Après, tout le monde part.
Et combien coûte le transport?
C'est 5000 francs.
L'un des chauffeurs qu'aide Gervais Nguema est Obama.
On fait avec par rapport à l'état de la route. On peut faire plus. Si tu rentres avec 5000, tu mets le carburant, tu peux apaiser tes dépenses.
L'état de la route, c'est aussi l'un des soucis de Mba Ngwa Mesa, 62 ans. Depuis 2 ans, chef du groupement Asok Mezin.
Le grand problème maintenant, c'est le problème de la route et le problème d'eau. Et la route très fréquentée, mais pas très bien entretenu.
Mézin connaît une activité économique limitée, ce qui est source de tensions entre la population locale et les étrangers, nous explique Jerry Omaïn, jeune sans emploi.
Il y a aussi l'envahissement de West Af, oui, qui font un peu les mêmes activités que nous et qui sont, disons, moins chers.
Timothée Donangmaï, OIM, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Un incident choquant s'est produit en Italie. Un migrant gambien s'est noyé dans le canal de Venise. Personne ne l'a sauvé, mais les badauds ont préféré sortir leur téléphone portable pour le filmer. Des insultes auraient également été proférées contre la victime. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Nicolas Pinot a joint Alassane Seydi, un activiste qui vient en aide aux migrants à Milan.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement les motivations de ce geste. Mais toujours est-il que c'est un jeune gambien qui est arrivé en Italie il y a de cela 2 ans. Alors, un demandeur d'asile qui n'a pas pu quand même obtenir cette protection dont il attendait. Alors, il a eu un refus de la part de la commission. Et vous savez qu'au niveau de Venise, c'est une zone qui est gérée par les responsables politiques de la droite, de l'extrême droite en général. Donc, les conditions de vie de ces jeunes qui proviennent de la Libye sont vraiment très, très difficiles. Alors, les gens disent que c'est un suicide, mais jusque-là aussi, l'enquête est en cours. On ne sait pas encore exactement les mobiles même de ce geste.
Quelle est la situation des sans-papiers africains en Italie? On parle beaucoup des Syriens, des Afghans qui tentent de traverser la Méditerranée, mais les subsahariens sont les plus nombreux à tenter le voyage en Méditerranée.
Depuis l'avènement de la chute même de Renzi, avec ce nouveau gouvernement en place, enfin, il y a des mesures qui sont prises de part et d'autre parce que actuellement le ministre est en train de faire le tour de toutes les régions d'Italie pour parler avec les gouverneurs, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais apparemment, il y a lieu quand même de s'alarmer un tout petit peu parce qu'ils veulent créer des centres d'expulsion. Ces centres que nous appelons aussi des CEI, c'est-à-dire des centres d'expulsion et d'identification. C'est-à-dire que toute personne qui est irrégulièrement établie ici en Italie sera détenue dans ce centre. Bon, ce n'est pas une prison, ce sont des centres où la personne peut effectuer des appels, peut recevoir des appels. Enfin, il n'est pas dans une prison, mais quand même, il ira interné le temps de voir comment il faut procéder pour le ramener chez lui. Alors, ça, déjà, ça crée un problème parce que je me rappelle, il y a de cela quelques années, ces centres étaient présents ici en Italie et ça avait créé beaucoup de tollé également parce que les associations des droits de l'homme s'était offusqué par rapport à la création de ces centres parce qu'il ne respectait pas les normes des droits humains.
Alassane Seydi est militant des droits humains en Italie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Togo a lancé cette semaine son écosystème digital. Il s'agit pour l'instant de 4 sites officiels concernés. Pour comprendre comment ça marche, suivons ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Dénommé écosystème digital togolais, ce projet numérique veut réorganiser et mettre de l'ordre dans l'univers digital de l'administration togolaise, tout en constituant une nouvelle étape dans la modernisation de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Edem Fiadjoué, chargé de mission sur le projet écosystème digital.
L'écosystème digital togolais consiste à fédérer, à donner une unicité à tous les sites de l'administration afin de donner accès aux informations à tous les usagers togolais. Le site est accessible par le portail pays-togo.tg et va vous permettre d'accéder au site présidence, au site de tous les ministères primatures et tous les sites de l'administration togolaise, ainsi qu'au site service public, data.gouv.tg, journal officiel. Toutes les informations qu'un usager pourrait rechercher sont accessibles sur ces sites-là.
La mise en ligne d'un site dédié au service public vient répondre à l'une des préoccupations de l'Association des usagers du service public du Togo, OSEP Togo. Une initiative que salue Jean-Baptiste Atisso, secrétaire général de cette association.
Nous ne pouvons que saluer cette initiative du gouvernement togolais. Ça va limiter les va-et-vient. Si par exemple tu veux faire un acte d'état civil, tu n'es pas forcément obligé de te rendre dans l'administration concernée pour pouvoir avoir les informations. Si tu as la connexion Internet, tu peux quand même aller sur le site là et puis cliquer sur l'acte dont tu as besoin et avoir les formalités à remplir pour pouvoir faire cet acte d'état civil. Et puis, tu réunis les pièces nécessaires et tu vas à l'administration concernée pour te faire établir cette pièce.
L'un des vœux des Togolais est d'arriver à remplir un formulaire en ligne en vue de se faire établir un document administratif. Sur la question de la dématérialisation des procédures administratives, voici ce que dit la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson.
Et notre réponse à ça, c'est que ça prend du temps, parce que ce n'est pas du tout une question technique, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que le ministre de la fonction publique travaille depuis plusieurs mois sur des projets de modernisation de l'administration et bien évidemment la dématérialisation est l'un de ces projets. Je ne sais pas encore sous quelle forme ce projet verra le jour, mais nous travaillons dessus et nous espérons pouvoir bientôt annoncer des bonnes nouvelles concernant cette dématérialisation.
Si pour l'instant l'écosystème digital togolais ne dispose que de 4 sites dédiés, le projet prévoit à l'avenir des plateformes spécifiques pour les opportunités d'investissement et pour le tourisme. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, c'était Souleyman Tarawale. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée et à bientôt.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.